Bonjour, bonsoir à tous, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast, bien évidemment, et je vous souhaite une joyeuse Pâques. Bon, j'ai un peu de retard, j'avoue, mais ce qui compte, c'est l'intention.
L'important, c'est l'essentiel.
Dans l'épisode précédent, on a abordé un sujet assez lourd, donc je me disais qu'aujourd'hui, on pouvait partir sur des thématiques plus légères. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de... on va parler de terrorisme. Yes, l'ambiance est incroyable dans ce podcast. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, car je suis accompagné d'une invitée exceptionnelle, Clara Kane.
Eh bien, merci Clara d'être avec nous, et bonjour.
Bonjour.
Tu vas bien ?
Écoute, ça va pas mal, et toi ?
Yes.
Alors, prends des antidépresseurs, parce qu'aujourd'hui, on va parler de Nocturama de Bertrand Bonello.
J'adore, c'est vraiment un de mes films préférés, moi, en plus, donc...
Ah bah écoute, nous sommes deux.
C'est juste que je savais pas que j'étais capable de faire un truc comme ça. Et là, j'ai la trouille.
Tu crois que je commence à flipper ?
J'ai une relation très particulière avec ce réalisateur parce que je n'ai vu que deux de ses films jusqu'à présent. Et oui, je n'ai pas vu l'intégralité des œuvres cinématographiques françaises. Il me manque quelques vies pour y parvenir.
Quelle indignité.
À savoir Zombie Child, son dernier long métrage en date, et donc Nocturama, celui qui le précède. Et parmi ces deux films, j'ai adoré l'un et je suis resté complètement en dehors de l'autre. Je pense que vous avez compris lequel j'avais apprécié, hein. C'était pas si compliqué en même temps.
Normalement, Bonello, c'est plutôt quelqu'un qui divise. Moi, j'avais beaucoup entendu ça et là, vraiment, je trouve que le film rassemble. Je connais personne qui n'aime pas le film, je sais pas ce que t'en penses.
Alors, moi justement, je connais quasiment que des gens qui aiment pas le film.
Ah.
Et je suis pas d'accord avec toi sur le fait que Bonello divise. Alors ça dépend des films, tu vois, évidemment le pornographe c'est pas hyper simple d'approche, etc. Mais par exemple, je crois que je connais personne qui n'aime pas la Polonide. Je crois que tout le monde est d'avis que la Polonide c'est sublime.
Et pourtant, Zombie Child avait tout pour me faire saliver. Une histoire de vaudou à Haïti oscillant entre deux époques, ça m'attirait, ouais. Mais même les morceaux du meilleur rappeur francophone actuel, à savoir Damso, n'ont pas suffi à me faire apprécier le film. J'ai vraiment l'impression d'être passé à côté.
Moi je voulais d'abord aborder avec toi mon rapport à Bonello, parce que moi j'ai vu que deux films de Bonello pour l'instant, donc qui sont Nocturama et Zombie Child.
Ouais.
Et moi Nocturama m'a juste fasciné, et Zombie Child par contre c'est le contraire. Quel rapport tu as à Bonello? Est-ce que t'as vu combien de ses films et ce que t'en as pensé?
Moi j'ai vu quasiment tous ses films, je crois que je les ai tous vus, mais j'ai peur de dire une bêtise, donc on va dire quasiment. J'ai vu quasiment tous ses films, y compris il a fait un super moyen métrage sur la plateforme de l'Opéra de Paris que je t'invite, que je t'encourage à voir, pardon, parce que c'est facilement accessible, que c'est gratuit, etc. Sur ce qui s'appelle donc la troisième scène, et en fait j'adore tout ce qu'il fait. Je trouve qu'il y a une recherche sur la symbolique et sur l'esthétisme, et aussi une grande influence de la littérature qui me passionne. Et voilà, et c'est vrai que Nocturama est un de mes 3 ou 4 ou 5 films préférés, parce que le film a vraiment roulé dessus, et j'aime bien le fait que ça soit un film dans lequel il s'éloigne un peu d'une forme de cinéma très très ouvragé, très lyrique, pour aller sur quelque chose de comment dire,
plus brut,
d'un peu plus froid, tu vois, et d'aborder des thèmes que je connais pas bien dans son cinéma, donc ça m'intéresse beaucoup.
Et Zombie Child, t'en as pensé quoi du coup ?
Zombie Child, j'étais un peu paumée, donc j'ai vraiment vécu ça comme une aventure.
Alors au moment de visionner Nocturama, j'étais un peu partagée. Netflix l'avait mis en avant sur mon compte dès sa diffusion sur la plateforme, et les visuels me donnaient vachement envie.
Moi, j'ai découvert Nocturama, donc j'étais sur Netflix et je savais pas quoi regarder, et en fait ça faisait 2-3 jours que je voyais que Netflix mettait en avant Nocturama, et avec ses visuels, et je trouve que le film est visuellement beau. Je sais pas ce que t'en penses, mais vraiment il y a des décors, il y a des cadres, notamment dans le centre commercial, que je trouve vraiment magnifique, et même la manière dont est filmé Paris, je trouve ça vraiment beau.
Ça faisait particulièrement du bien, parce qu'en plus, comme tu le sais, le film a été écrit il y a fort longtemps, et il s'est avéré que Bonello a dû s'en dépatouiller, et le distributeur d'ailleurs, hein, parce que c'est pas le réalisateur tout seul avec ses petits bras qui va voir les salles en disant « Est-ce qu'on peut projeter mon film ?» Donc voilà, les programmateurs et les distributeurs ont dû s'en dépatouiller dans un contexte post-Bataclan, donc qui était particulièrement délicat, alors que le film date d'il y a très longtemps. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, en étant parisien, c'est un film aussi qui fait du bien. De voir sa ville comme ça, effectivement, c'est sublime. Et moi, j'adore la façon dont ils filment ce grand magasin, donc ils ont tourné à la Samaritaine, je crois. J'adore la façon film la société de consommation et ce grand magasin, et où on est quasiment dans un musée en fait. Et c'est vrai que du coup la confusion aujourd'hui des grands magasins avec des lieux culturels est assez amusant, et notamment il y a un plan qui plonge au milieu d'un escalier dont je garde un souvenir très très fort, et qui montre aussi qu'ils sont dans un dédale et dans des méandres. Et donc voilà, c'est mais effectivement l'image est sublime, et il y a toute une symbolique dans l'image qui est très très forte, et qui à la fois porte le propos et accompagne le spectateur.
C'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue de parisienne, parce que même moi, tu vois, du coup je suis pas de Paris, moi je suis de Tours. tour, donc Paris, j'y vais une fois tous les ans, quoi. Et même moi, en tant que personne extérieure à Paris, j'ai trouvé ça vraiment bien filmé. Je trouvais que les cadres étaient jolis. Et du coup, je trouvais qu'ils filmaient Paris vraiment dans toute sa grandeur, un peu, alors que normalement, on est vraiment... moi, dans tous les reportages que je vois, ou les petites émissions, c'est toujours, on est dans des rues de Paris, tout ça, alors que là, c'est vraiment... Il a vraiment essayé de filmer, quand je pense au plan de la statue de Jeanne d'Arc, ou du ministère de l'Intérieur, il essaye vraiment de filmer dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Et il y a vraiment une idéalisation de la ville de Paris.
Je suis vraiment d'accord, mais à la fois c'est très idéalisé, à la fois ça fait du bien, tu vois, vu qu'on est vraiment, bah là on est enfermé depuis un an. Au moment des attentats, vraiment les Parisiens ont été, et les Français hein, de manière générale, mais il y a eu ce truc de on a été meurtri dans notre ville, donc ça fait aussi du bien de la voir très, très glorieuse comme ça. Ça fait vraiment un bien fou. Ce moment de Adèle Haenel qui prend son vélo et qui va se balader. De Finnegan. Il y a vraiment aussi ce côté de tu vois, des habitants d'une ville qui en sont les acteurs et qui ont envie de l'habiter et de l'incarner. Et vu qu'on est tous un peu dans cet état-là en ce moment, moi, ce film me fait beaucoup de bien aussi là-dessus. Donc voilà, sur cette question, sur qu'est-ce que c'est l'action, mais aussi le côté c'est là chez moi.
Mais avec la déception de Zombie Child, j'étais très craintif. Je décide tout de même de lancer le film, et que fut ma surprise. Pendant un peu plus de 2 heures, je n'ai pas bougé, ne serait-ce qu'un petit doigt. Le film est magistral, tellement qu'après mon visionnage, j'ai fait sa propagande pendant au moins 2 mois auprès de mes potes, qui ont apprécié le film eux aussi, comme quoi je les ai pas choisis pour rien.
James Mesamus.
Nocturama, je dirais pas que c'est le chef-d'œuvre, parce que c'est pas le cas, parce que je trouve par exemple que son Saint-Laurent est extraordinaire, et La Polonite, c'est vraiment un de mes tout films préférés. Mais en tout cas, ce qui m'a vraiment vraiment passionné dans le Nocturama, c'est la façon dont j'avais l'impression que le film s'adressait à moi, parce que mais vraiment c'était directement ce à quoi je pensais à ce moment-là, mes problématiques, mes sujets, mes réflexions. Alors évidemment pas poser des bombes, et encore quoique de façon métaphorique, parce que Nocturama, en fait, ce qui me fascine, c'est la façon dont ça parle de jeunes gens, tu vois, de vingtenaires, qui trouvent que ça va pas, ça vraiment ça va pas, mais qui savent pas quoi faire, et qui du coup décident de faire un geste extrêmement fort. Et je trouve ça fascinant, ce côté il fallait bien qu'on fasse quelque chose.
Du coup, Nocturama, c'est quoi? Le film se passe à Paris, on y suit un groupe de jeunes qui viennent de niveaux sociaux bas et élevés, on est dans un choc des cultures, et qui se retrouvent ensemble pour commettre un attentat. Et attention, ici rien à voir avec des groupuscules comme Al-Qaïda ou Daesh, non, le film s'intéresse pas du tout à ce type de terrorisme. Ici, les jeunes se rebellent contre le système capitaliste.
Je pense qu'il y a un truc, alors le mot aujourd'hui est vraiment très mal
connoté.
Comment dire, très mal... Mais ce que je veux, c'est que pour moi, ils sont plus anti-système. Alors, le mot est horriblement mal connoté aujourd'hui. Mais je vois plus une dénonciation du système dans son ensemble plutôt que du capitalisme. Enfin, c'est ma vision des choses, mais...
Il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est pour ça que je t'ai invité.
Les cibles ne sont pas choisies au hasard. Ce sont des symboles du système et de la France qui sont attaqués. Avec le ministère de l'Intérieur, une banque ou encore une statue de Jeanne d'Arc. Le film retrace le chemin qu'ils ont parcouru avec toutes les réunions de préparation avant le passage à l'acte, dont la journée de l'attentat, en montrant les différentes étapes au fil des heures avant que tout ne pète dans Paris. Après l'attentat, les jeunes se retrouvent dans un centre commercial fermé pour se cacher et suivre ensemble les informations et le chaos qu'ils ont créé. À ce moment-là, un vrai huis clos commence et le film prend une toute autre tournure. Vont-ils s'arrêter là ou commettre d'autres attentats? La police va-t-elle les retrouver et les arrêter? Est-ce que le monde qu'ils ont voulu anéantir va changer? Eh bien, ce sont tant de questions auxquelles vous pourrez répondre en regardant le film. C'est-à-dire que je fais quand même cette chronique pour vous inciter à voir le film, donc bon, je vais pas vous raconter tous les détails.
C'est vraiment pas nice.
Désolé.
Comment t'as appréhendé le déroulement du film? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es dit, dans les choix scénaristiques, tu t'es pas dit à un moment, il prend un virage, c'est intéressant, ou ah, au contraire, j'aurais pas vu l'histoire comme ça?
J'en ai pas pensé grand-chose, parce qu'en fait, je me rappelle très bien l'avoir vu à une avant-première publique où Bonello était venu présenter le film, etc. Et je savais à peine ce que j'allais voir, j'en avais pas du tout entendu parler. Je savais juste que c'était un film sur des jeunes gens qui posent des bombes. Et en fait, je t'avoue que j'ai eu assez peu de réflexion, tu vois. C'est-à-dire que j'étais devant, je me suis fait rouler dessus, mais j'étais pas à conscientiser, ah, il est en train de se passer ça, ils vont faire tel truc, etc. Je me rappelle juste, mais je crois que toi aussi, avoir été cramponné à mon siège.
Ouais.
Et juste avoir fait, oula, 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 oula.
C'est exactement ça.
C'est ça. Et non, y compris, tu vois, quand j'étais en train de prendre le métro au début, tu vois, j'étais genre, oula, oula. Oula, tu vois, ça me... Voilà.
Ouais, non mais oui, mais moi j'étais exactement pareil en fait, c'est vraiment, je subissais limite les événements du film, mais je trouvais que faire un huis clos en fait, c'était hyper intéressant, c'est-à-dire de voir les personnages justement, déjà on a vraiment, je trouve que les réunions, on a vraiment un regard assez intimiste sur eux.
Bien sûr.
Et là, ouais, le huis clos, ça renforce vraiment cet effet d'intimité. Et j'ai trouvé ça super intéressant.
Bon, scénaristiquement déjà, j'aime comment l'histoire se déroule. C'est fait de manière simple mais très efficace, en se concentrant toujours sur l'essentiel. Ça s'éloigne jamais du sujet de base, c'est pas parasité par des intrigues mineures, et c'est une chose qu'on a trop tendance à retrouver dans le cinéma aujourd'hui. Je trouve ça vraiment dommage. Donc ça fait plaisir de voir un film qui lance pas des pistes à gauche, à droite.
À gauche, à droite.
Bah, au niveau du scénario, j'ai trouvé ça très simple et efficace, et que c'était pas parasité par des intrigues mineures comme c'est le cas dans d'autres films où il y aurait pu avoir des petites histoires. Là, il me semble qu'il y a une petite amourette entre deux personnages, mais vraiment juste on l'évoque, on n'en parle pas, enfin ça devient pas une intrigue mineure du film, un élément qui pourrait être perturbateur, et je trouve très intéressant que le film se concentre vraiment sur son objectif.
En même temps, il y a aussi le fait qu'il y a des personnages qui sont frères et sœurs. Pour moi, justement, ce qui m'intéresse, c'est les relations entre les personnages, c'est comment est-ce qu'ils justifient leurs actes, etc. Donc en fait le scénario est assez dépouillé, tu vois, finalement, parce que c'est quand même genre circuler, faire ton action, parce qu'on est vraiment sur un questionnement de l'action, circuler, accomplir l'action, se replier, et tu vois, et après attendre en étant immobile, et comment est-ce qu'ils gèrent l'ennui et l'enfermement. Justement, moi je suis très intéressée par les relations entre les personnages. Ils sont tous, à mon avis, à poser beaucoup de questions. Il y a une phrase célèbre comme ça qui est est-ce que les poseurs de bombes sont des gens qui posent des questions. En tout cas le fait que ça soit un scénario du mouvement et puis de l'absence de mouvement et de la question de est-ce que l'action c'est être en mouvement ou c'est être à l'arrêt ou des choses comme ça, effectivement me fascine particulièrement. Et la question de ils font effectivement un geste qui est anti-système, anti-capitaliste, pour ensuite aller se planquer dans un grand magasin et consommer, tu vois, puisqu'ils passent la nuit à prendre des bains, se maquiller, s'habiller, jouer avec les voitures, etc. Donc tu vois aussi un balancement entre ces jeunes gens qui à la fois se rendent compte que ça va pas mais qui en même temps trouvent que c'est bien agréable. Moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est le balancement en fait qu'ils ont tous.
Le travail visuel du film est aussi très bien réalisé. Quand je dis que j'ai regardé le film parce que Netflix l'avait mis en avant et que les images m'ont plu, ça démontre bien ce que je veux entendre par là. L'image est belle, les plans sont calculés, les décors sont jolis, même dans le centre commercial. Au niveau de la réalisation, il y a vraiment des idées de mise en scène que je trouve tellement bien pensées. Il y a des scènes qui me mettent encore les frissons quand j'y pense aujourd'hui, notamment une scène de chant dans le centre commercial sur du My Way que je trouve magique. On est propulsé hors du temps pour atteindre un moment de grâce inouï alors que dehors c'est la tempête.
Et moi notamment il y a une scène dans le film qui m'a marqué, c'est la scène de My Way.
Bien sûr. Qui est
un moment de grâce inouï, et je trouve que c'est une super belle métaphore où en fait eux ils sont dans leur espèce de bulle. Là on est vraiment sur un moment qui est hors du temps, alors qu'en fait dehors bah c'est le chaos, c'est la débandade, et du coup ça fait un parallèle qui est assez saisissant. Et moi vraiment c'est l'une des scènes qui m'a le plus marqué, et surtout je trouve que l'acteur incarne vraiment quelque chose sur cette scène.
Il s'appelle Hamza Mediani il est incroyable dans ce film là, et il a fait un autre film un peu avant qui s'appelle Les Apaches, que je trouve absolument extraordinaire. Donc voilà, que je t'encourage à voir. Et il a fait aussi Microbe et Gasoil, qui est un film de Gondry. Et non, j'adore cet acteur, je trouve que la scène est fascinante et c'est marrant, c'est vraiment la scène qui m'avait le plus marqué quand je l'ai vu la première fois. Donc ouais, cette scène est incroyable. Et d'ailleurs, je sais pas si à un moment on va parler de l'utilisation de la musique.
Bah si tu veux en parler, c'est maintenant, vas-y. Je te laisse ton quart d'heure de plaisir.
Donc ça est extrêmement fort en fait, la façon dont il y a beaucoup de sound design, et puis il y a ce qu'on appelle des phonogrammes, donc des morceaux de musique en entier. Voilà.
Ouais, ça fait des clips show quoi. Un peu.
Ça fait des clips.
À la Dolan.
Un peu à la Dolan. Ouais. Il y a un truc comme ça, un peu à la Dolan. Notamment, j'ai ce souvenir du moment où il y a le clip ce morceau de la fille de Will Smith, de Willow Smith, qui s'appelle I Whip My
Hair Back and Forth. Ouais.
Exactement, Back and Forth. Et ce moment où du coup, tu vois, ils se rendent compte qu'en fait, tu vois, il y a ce jump cut sur les télés, etc., où ils se rendent compte qu'ils sont encerclés, qui est ouf, quoi. Enfin voilà, j'aime bien la façon dont ils laissent les morceaux se dérouler. Donc c'est un vrai moment de narration en fait. L'utilisation de la musique, elle est pas juste illustrative. Enfin pardon, c'est pas juste du décor, c'est vraiment de la narration, son utilisation de la musique.
C'est vraiment quelque chose que j'adore au cinéma, moi, les clip shows où vraiment on laisse parler la musique et l'image correspond parfaitement. Et je trouve que Bonello l'utilise très bien dans Noctirama, et vraiment Dolan l'utilise vraiment aussi bien. Par exemple, dans Lawrence Anyways, ce moment où il y a les vêtements qui tombent du ciel avec la musique de Moderat, ou même Jump Around dans Les Amours Imaginaires, c'est vraiment... moi, c'est quelque chose au cinéma que j'aime beaucoup, donc ça me fait plaisir que t'en parles.
Les acteurs sont formidables. Parmi eux, il y a des têtes connues comme Finnegan Oldfield, qu'on a vu dans Marvin ou La Belle Éducation, ou encore Rabat Naït-Houphouët-Boigny, qui a joué dans Grave, Entre les Murs ou Bande de Filles. Si vous tapez son nom dans Google Images, je suis sûr que certains vont se dire
« Mais oui !»
Il y a même Adèle Haenel qui pique une tête, c'est pour dire. J'aime beaucoup aussi leurs interprétations respectives, la manière dont ils jouent les personnes qu'ils représentent.
Et on parlait des acteurs. Il y a aussi Finnegan Oldfield, qu'on a déjà vu dans Marvin ou La Belle Éducation avant.
Bien sûr.
Il y a Rabat Naït-Houphouët-Boigny, qu'on a vu aussi dans Grave, qu'on a vu dans tellement de films.
J'adore ce mec.
Ouais, je l'adore aussi, vraiment, j'adore cet acteur. Et du coup, tu l'as dit tout à l'heure aussi, il y a Adèle Haenel qui me pique une tête carrément. On a quand même un beau casting avec des acteurs qui sont jeunes mais très prometteurs. Et qu'est-ce que t'as pensé du coup, toi, des acteurs dans ce film?
Je les trouve fabuleux et il y a aussi il y a aussi une fille, comment est-ce que c'est, Manal Issa, qu'on a vu dans plein de films aussi, qui est super. Moi, ce que j'aime bien, c'est la façon dont ils sont dans un jeu très naturel et où tu sens vraiment que c'est eux qui s'expriment via leur personnage. Il n'y a pas trop de construction, enfin j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de construction, et donc du coup ils se sentent eux-mêmes très proches des personnages et ça leur permet d'être très frontaux, quoi.
Ouais.
D'être vraiment sincèrement là et sincèrement dedans, et je trouve ça ouf. Enfin voilà, moi j'ai vraiment adoré tout ça. Cette partie-là.
On sent que c'est des amateurs. Il y a un côté très naïf dans leur acte, parce qu'ils veulent faire quelque chose de symbolique. Mais ils cherchent pas à faire le plus de morts non plus. C'est symptomatique d'une jeunesse qui veut changer le monde sans faire la guerre. Et ça, c'est plutôt bien retranscrit à l'écran.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la réflexion de qu'est-ce que c'est l'action. Et je pense aussi, dans la mesure où c'est des gens qui trouvent que le modèle qu'on leur propose est pas bon, que d'aller chercher à faire quelque chose de très impressionnant mais qui fasse pas de dégâts humains, c'est aussi le c'est la façon dont ça s'exprime, tu vois,
une forme de démonstration. Ouais,
ouais, le système nous convient pas, donc en fait on va pas l'attaquer de la façon dont on attaque le système de façon habituelle, parce que sinon ça serait juste le perpétrer, enfin voilà. Donc je trouve ça fort, en fait je trouve ça très très fort, le côté on va faire péter des bâtiments où il y a personne, enfin, ou en tout cas on espère qu'il y a personne. C'est cool
aussi, le film monte crescendo en tension pour finir sur une scène finale qui est glaçante. Je me souviens que quand j'ai fini le film, je suis resté assis au moins 5 minutes sur mon canapé, un peu abasourdi parce que je venais de voir. Le film est une véritable onde de choc.
Ah bah j'étais recroquevillée sur mon siège de cinéma, et notamment, et si je me souviens bien, hein, le film se termine sur un personnage dont le comédien s'appelle Ilias Le Doré.
Ouais.
Et il y a une réplique finale qui résume le film. Et effectivement, la scène de fin est hyper forte. Et alors, dans les choses dont on peut parler sans que ça spoil, il y a tout un truc où sur la fin du film, le montage commence à faire des erreurs. Et je trouve ça passionnant parce qu'en fait ça montre aussi qu'ils sont épuisés moralement, physiquement, et qu'eux-mêmes ils commencent à avoir la mémoire qui déraille un peu et la tête qui déraille un peu. Toute la fin du film, et donc notamment cette scène finale, le montage est un peu erratique, le montage se plante.
Ouais.
Et ça, archi cool quoi. Enfin, je trouve ça vraiment tellement intelligent et tellement sensible et tellement créatif de commencer à faire des erreurs de montage sur la fin, volontaire, hein, tu vois, c'est pas qu'ils se sont trompés quoi.
Ouais.
Mais de commencer à faire des erreurs de montage sur la fin pour signifier l'état des personnages, voilà, c'est très fort que la technique soit aussi narrative.
Malheureusement, bien que Nocturama soit un immense film, il avait face à de nombreux obstacles. Déjà, le film aurait dû se faire bien plus tôt, parce que Bonello avait écrit le scénario depuis 2011, et il pensait réaliser juste après avoir tourné L'Apollonide, Souvenir de la Maison Close. Mais est-ce que vous vous souvenez qu'une année, deux biopics sur Yves Saint Laurent sont sortis? Eh bien, Bonello a réalisé l'un des deux, donc ça a reporté le projet. Donc finalement, le projet se fait. Et il faut savoir que de base, le film s'appelait Paris est une fête. Sauf qu'entre le scénario et la sortie du film, je sais pas si vous êtes au courant, mais on a eu deux séries d'attentats en France en janvier et novembre 2015. Et Paris est une fête était l'une des phrases fortes dans les manifestations qui ont suivi ces actes odieux pour montrer le fait qu'il fallait faire face au terrorisme et continuer à vivre normalement. Ça a poussé donc Bertrand Bonello à changer le titre et opter donc pour Nocturama.
Je crois que c'est une chanson de Nick Cave et que Nick Cave a donné son autorisation.
En tout cas, jetez-vous sur Nocturama. Enfin, pas au sens littéral. Petit commentaire négatif, on écoute Hugo L qui nous dit « Quand tu téléchargeais un bon film et que tu te retrouvais avec une bouse à la place, voilà le sentiment que j'ai eu après avoir vu ce film. La jeunesse contre la libéralisation de la société semble être le sujet de base de ce film vide de tout sens et de ligne directrice. » Bon, je vais pas vous faire un couplet hypocrite sur le téléchargement parce qu'on l'a tous fait, mais évidemment, c'est pas bien. Ça soutient pas les films que vous aimez et les offres sur les différentes plateformes de SVOD sont si riches que ça vaut même pas le coup au final. Ensuite, il parle de films vides de sens et de ligne directrice.
Mais enfin, ça va pas!
Camomille.
Mais c'est juste insupportable!
Camomille.
Arrêtez!
Camomille.
je peux plus animer une émission.
Le film suit un plan bien précis du début à la fin, sans jamais sortir de son but de base. On a une montée en tension qui, je le répète, est crescendo et régulière. Si tu penses qu'un film qui parle de terrorisme et de rébellion de la jeune génération est vide de sens, eh bien je ne vois pas tellement ce qui peut avoir de sens. Le sujet n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui, dans une société où la consommation est au centre de tout, où les jeunes ne trouvent pas de travail et où le fanatisme grandit de plus en plus. C'est pas une émission politique, mais si on examine les choses de manière pragmatique, le film vit avec son temps. Sur ce, je te laisse prendre un billet de train pour la jolie ville de Guérande. D'ailleurs, on m'a fait des remarques vis-à-vis du fait que je reprenais des commentaires négatifs. Je suis totalement favorable au débat sur un film, c'est carrément quelque chose que je chéris. Je pense que c'est l'essence même du cinéma. Quand je reprends des commentaires dans ma chronique, c'est parce que je juge que les arguments avancés sont erronés, gratuits ou qu'ils ne disent rien de vrai sur le film.
C'est-à-dire que...
Tu mens.
C'est-à-dire que, regarde...
Tu mens.
Parce qu'aujourd'hui, les gens...
Voilà, tu mens, frère.
Voilà pour la petite parenthèse. Merci à tous d'avoir écouté cette chronique. Pour le chocolat, je compte sur vous pour pas trop vous gaver, hein.
A few moments later.
J'ai tout mangé le chocolat.
Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager sur tous tes réseaux sociaux. Le podcast a un compte Twitter et Instagram. Donc, il s'agit de @tfcedlmlff. Donc, qui sont les initiales du podcast. Mais si tu tapes le nom du podcast dans la barre de recherche, tu devrais retrouver très facilement. Et Clara, tu as des réseaux, toi?
Tu as des réseaux sociaux?
Des quoi?
Des Shkunedek. Et du coup, donc tu as un Instagram, donc c'est Clara Kane.
Ouais.
Et sur Twitter aussi.
Ouais.
Donc également, tu animes un podcast donc avec Victor Bonnefoy, Simon Rio, Marc Moquin et Sophie Grèche, donc qui s'appelle Le Cinéma.
Alors, je n'anime pas ce podcast puisque c'est Victor qui anime, mais en tout cas, j'y contribue avec grande joie.
Et aussi, j'ai vu que tu faisais une petite émission qui s'appelle Les Nouilles Rampantes. Est-ce que tu peux nous en parler?
Écoute, avec donc sur la chaîne Twitch de ce bon Thomas Hercouette, en la présence également de Goulet, donc qui est dessinateur de BD, de Juliana, qui est une super scénariste, qui est aussi dans 2 heures de perdu, et de dans les permanents, hein, parce qu'on a aussi des guests à chaque fois, et également avec Melvina, dont le pseudo est Cherry Cream sur les réseaux sociaux, qui est une botte de meuf. Une fois par mois, le samedi à 22h, on se réunit et on raconte des histoires qui font peur. Peut-être qu'elles sont vraies, peut-être qu'elles sont pas vraies.
D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.
Au revoir.